Aujourd'hui, Antoine Danchin va nous parler de l'identité génétique. Alors, Antoine Danchin est directeur de recherche au CNRS depuis 1984. Il est chef de l'unité de régulation de l'expression génétique depuis 1986. Il est aussi professeur à l'Institut Pasteur et il vient d'être nommé directeur d'un centre mixte Université de Hong Kong Institut Pasteur à Hong Kong. Je noterai aussi qu'outre ses recherches en génétique, il a développé toute une activité de vulgarisation. Il est ainsi chroniqueur au magazine La Recherche et publie assez souvent des articles dans des journaux tels que Le Monde des débats ou Le Débat. Parmi ses publications, je voudrais juste indiquer un certain nombre d'ouvrages. Ordre et dynamique du vivant, chemin de la biologie moléculaire, paru au Seuil en 1978. L'œuf et la poule, histoire du code génétique chez Fayard en 1983. Une aurore de pierre aux origines de la vie, paru au Seuil en 1990. Et la barque de Delphes, ou ce que dit le texte des génomes, chez Odile Jacob en 1998. Antoine Danchin, je vous laisse la parole.
Devant l'extraordinaire mise en scène de cette conférence, qui est très inhabituelle pour moi, j'ai choisi, c'est un peu par hasard que j'avais apporté quelques notes à ce propos, de commencer cette conférence de façon tout à fait différente de ce que j'avais prévu initialement. Je vais commencer par vous parler de la science, de la nature de la science, parce que je pense que nous sommes en ce moment, et la mise en scène en question le montre bien, dans une déformation extrêmement profonde de la nature de la science. Et cette déformation vient du fait que dans le monde occidental, nous vivons au moins dans deux grandes traditions. Comment est-ce que je fais ? Deux grandes traditions qui sont plus ou moins en conflit. La première est celle qui correspondait aux grandes fonctions identifiées par Georges Dumézil, et qu'il a identifié comme les trois pouvoirs, et qu'il retrouvait dans l'ensemble des mythes indo-européens de l'Inde jusqu'aux pays scandinaves, le prêtre, le laboureur et le soldat. Et je me souviens d'avoir vu, sur le fronton d'une église en Algérie, Deo NC et Aratro, ce qui veut dire par Dieu, par l'épée et par la charrue. Ça, c'est effectivement la façon dont on conçoit le monde. On conçoit donc qu'il y a des gens qui jouent le rôle de prêtre, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qu'on peut entendre et qu'on peut retransmettre, que cette vérité est applicable, elle est appliquée par le laboureur, et si certaines personnes ne veulent pas la comprendre, on a des soldats pour les faire comprendre. La science vient de tout à fait autre chose. La science vient d'une autre tradition, qui est celle de la tradition grecque, dans laquelle le personnage central est le philosophe. J'ai dit ici le scientifique, disons l'homme de science aujourd'hui, ce qu'il devrait être en tout cas, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il y a une différence fondamentale entre les modèles du monde qu'il présente et la réalité du monde. Et que par conséquent, il ne peut pas jouer le rôle de prêtre, il ne peut pas être mis dans la situation dans laquelle il semble que je me trouve aujourd'hui, à savoir de délivrer une vérité qu'il serait important d'imposer à tous. Donc j'espère que vous allez comprendre que ce que je vais vous dire est l'état de la science à un moment donné, c'est-à-dire l'état d'une réflexion, l'état d'une façon de considérer le monde, de considérer la vie en général, et que cet état est évidemment non pas relatif, c'est-à-dire que la science progresse systématiquement, le savoir progresse en étant de plus en plus adéquat au monde, je n'ai pas le temps de le discuter longuement aujourd'hui, il y a donc une réelle progression, il n'y a pas un relativisme absolu, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais ce qu'on peut dire est toujours soumis à la discussion, et en particulier à la discussion des scientifiques. Ne peut pas être imposé comme opinion, comme une vérité divine. Il y a 3000 ans, en Grèce, les gens allaient consulter l'oracle de Delphes, la Pythie, et l'interrogeaient sur leur avenir. Et à son tour, elle leur répondait par des questions énigmatiques. Et l'une de ces énigmes était la suivante. J'ai une barque faite de planches, et les planches s'usent une à une. Au bout d'un certain temps, je change les planches, et au bout d'un certain temps, toutes les planches ont été changées. Est-ce la même barque ? Clairement, le propriétaire répond oui, Et il a certainement parfaitement raison, vous en conviendrez. Si le propriétaire répond oui, c'est que quelque chose qui fait que la barque flotte s'est conservé, bien que la matière de la barque ne soit pas conservée, puisque toutes les planches ont été changées. La nature même du bois peut avoir été différente. Pourquoi j'ai choisi cette image, cette question, pour parler de la vie? C'est que je pense qu'il est essentiel de concevoir le vivant comme une science, et la biologie comme une science des relations entre objets, plus qu'une science des objets. Et ce que je vais essayer de vous montrer petit à petit, au cours de cet exposé, pour essayer de vous faire comprendre comment se construit l'identité des organismes vivants, je vais essayer de vous montrer que ce qui compte, ce sont des relations, mais pas n'importe quelles relations. Il s'agit de découvrir la forme de ces relations et que connaître simplement les objets, disséquer l'animal, si vous voulez, ne suffit pas, loin de là, et en fait, apprend extrêmement peu si on n'a pas compris les relations entre les objets. Alors, évidemment, on est amené, et c'est ce qui vous a été dit en introduction, à se poser pour commencer la question centrale, qui est « qu'est-ce que la vie ?». Alors aujourd'hui, on peut définir la vie de la façon suivante. Alors, je suis désolé, mais je vais vous demander un minimum d'effort d'abstraction. Comme je vous ai dit que je parle de relations entre objets, vous voyez bien que je parle de quelque chose qui est abstrait. Le plan de la barque a quelque chose d'abstrait par rapport aux planches. C'est facile de comprendre un tas de planches, c'est plus difficile de comprendre une barque. Si vous voulez comprendre de la biologie, vous êtes obligé de faire un minimum d'effort d'abstraction et donc de considérer un certain nombre de processus et de lois que je vais essayer de vous décrire le plus simplement possible. Ces processus qui font que les organismes vivent sont au nombre de 4. Le premier, j'aimerais bien conserver l'image, oui. Le premier est le métabolisme. Il n'y a pas d'organisme vivant dans lequel il n'y ait transformation d'objets en d'autres objets, essentiellement des petites molécules ou des molécules plus grosses qui sont transformées les unes en les autres. Et de fait, bien qu'il existe un état qu'on puisse appeler la dormance, qui est entre la vie et la mort, c'est l'état de la graine ou l'état de la spore du champignon ou de la bactérie, on ne pourra définir l'organisme comme vivant qu'au moment où son métabolisme se sera réveillé, c'est-à-dire où on aura vu justement ces changements d'objets les uns dans les autres. Vous voyez que c'est la nature même de créer des relations et de les manipuler. La deuxième caractéristique des organismes vivants, c'est la compartimentation. L'élément de base de la vie, l'atome de vie, si vous voulez, c'est la cellule. Et une cellule, c'est fait d'un intérieur et d'un extérieur. En réalité, il y a dans la vie deux grandes stratégies d'organisation de la compartimentation, ou bien on a des cellules uniques avec une enveloppe plus ou moins compliquée, et ces cellules doivent vivre dans des environnements extrêmement variés, donc doivent être extraordinairement rapidement adaptables à des environnements variés. C'est ce qui correspond à la plupart des microbes que nous connaissons, la plupart d'entre eux étant d'ailleurs des microbes utiles, plus que des microbes nuisibles. Vous seriez peut-être étonné de savoir que nous avons chacun dans nous-mêmes 10 fois plus de cellules microbiennes, de bactéries, que nos propres cellules. Donc vous voyez qu'on peut inverser de qui colonise qui. Et la deuxième stratégie, c'est au contraire de multiplier les membranes et les peaux jusqu'à nos vêtements pour isoler autant que possible le milieu intérieur du milieu extérieur. Donc vous avez ces deux grandes stratégies. Et à ces deux grandes stratégies de compartimentation sont associées des stratégies, et je n'aurai pas le temps d'en discuter aujourd'hui, de mise en mémoire de quelque chose qui va se transmettre de génération en génération et qui va exprimer la règle de construction des organismes vivants. Alors ça, c'est une partie qui est évidemment extrêmement importante et qui est celle que l'on considère comme fondamentale de nos jours. Vous en entendez parler sans arrêt, celle qu'on appelle le génome. Il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier. Il s'agit d'une famille de molécules qui sont faites de motifs chimiques de base extrêmement simples, de 4 types différents, et seulement 4, qui sont enchaînés à la queue leu-leu, exactement comme les lettres de l'alphabet sont enchaînées pour construire des phrases dans un livre. Alors ça, c'est une chose qui est évidemment extrêmement particulière aux organismes vivants. On peut décrire une partie de ces organismes par un processus de mémoire qui est la transmission d'un texte. Ça, c'est quelque chose qui, en soi, est tout à fait mystérieux. Je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure pour vous montrer que, précisément, le fait d'avoir ce premier texte, puis ensuite un second texte, ouvre des possibilités tout à fait extraordinaires à la vie. Alors ce premier texte donc, est fait d'une classe de molécules qu'on appelle les acides nucléiques, donc qui ont ces motifs de base enchaînés les uns à la suite des autres et qui sont de quatre types différents. Mais bien entendu, ce texte est un texte de recette, si vous voulez. C'est un texte qui ne suffit pas à faire fonctionner un organisme vivant. Il faut mettre en œuvre la recette. Et nous avons là un deuxième type d'objets dans les organismes vivants qui sont aussi des objets qui correspondent à la mise à la queue leu-leu d'éléments de base. Mais cette fois-ci, ces éléments sont au nombre de 20. Ils s'appellent les acides aminés. Ils sont au nombre de 20, ils ne sont pas au nombre de 4. Et il existe donc une correspondance entre cette mémoire et ces objets qui sont des objets qui servent à la construction architecturale des cellules, à la manipulation de toutes les règles de contrôle ou des règles du métabolisme. Donc, ces quatre processus doivent fonctionner ensemble pour construire un organisme vivant. Alors, il est essentiel ici de bien se rendre compte qu'on ne peut pas avoir d'organisme vivant sans l'ensemble des quatre. Et si on prend ces éléments comme nécessaires à la définition de la vie, on se rend compte que les virus, par exemple, ne sont pas des organismes vivants. Les virus ont la propriété de mémoire, ils ont une certaine propriété de compartimentation, d'ailleurs, qu'ils acquièrent de la cellule hôte, mais ils sont incapables de métabolisme et ils sont incapables de manipulation, essentiellement. Donc les virus, ce sont des parasites de mémoire pure. Et là, et curieusement, la même image est apparue en science des calculateurs électroniques, où on a des morceaux de programme qui se promènent dans les ordinateurs et peuvent avoir comme propriété essentiellement de se répandre en se multipliant eux-mêmes, si possible à l'identique, et en se propageant. Donc vous voyez, l'idée qui apparaît ici liée à cette idée de mémoire est une idée nouvelle, qui est une idée de programme. Alors maintenant, je vais en dire un petit peu plus. À ces quatre processus s'ajoutent deux lois. Une première loi, c'est celle qui permet de conserver la mémoire. En fait, cette mémoire, elle est double. Elle est faite de deux éléments, un peu comme le positif et le négatif photographique, l'un contre l'autre, qui permettent, lorsqu'on les sépare, de reconstituer entièrement l'un à partir de l'autre. Alors ça a été la grande découverte de Wilkins, Watson et Crick en 1953, qui est la découverte, donc la structure de l'acide désoxyribonucléique, qui a permis brutalement de comprendre comment on pouvait conserver un enchaînement donc, de motifs chimiques au cours des générations à l'identique. Eh bien, l'idée, c'est tout simplement qu'on a une règle, la première loi, qui est une règle de complémentarité qui permet de spécifier entièrement un morceau de texte par l'autre texte et de façon symétrique. Alors la deuxième loi, elle, est beaucoup plus importante. Cette première, évidemment, explique la transmission au cours des générations, mais la deuxième va expliquer les propriétés essentiellement innovantes des organismes vivants. Il faut passer de la mémoire à la manipulation. Il faut passer des acides nucléiques aux protéines. Et ça, c'est quelque chose qui demande... Vous voyez, vous avez un processus de traduction. Vous voyez, vous avez un premier texte écrit dans un alphabet à quatre lettres avec une langue d'un certain type. Cette langue est une chimie spéciale. Et on passe brutalement à des morceaux de texte écrits dans un alphabet, cette fois-ci à 20 lettres, avec une chimie totalement différente. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Eh bien, cette règle de passage s'appelle le code génétique. Et là, il y a une ambiguïté qui, malheureusement, existe depuis l'origine même de la conceptualisation du code génétique. Les auteurs du mot code génétique en étaient parfaitement conscients et l'ont d'ailleurs choisi à dessein. À dessein, justement, je reprends tout à l'heure mon analogie prêtre-laboureur-soldat, à dessein de favoriser l'image du prêtre chez les hommes de science, qui était de tromper le public. En fait, vous verrez souvent écrit dans des journaux « on va déchiffrer le code génétique de tel ou tel organisme ». Le code génétique, en fait, c'est la même chose que le code qu'utilisent les enfants lorsqu'ils font des messages secrets. C'est en fait une règle qui permet de transposer un texte en un autre texte. Et ce code génétique, à peu de choses près, est universel. Il est le même des bactéries à l'homme, et c'est ce qui fait qu'on peut faire ces fameux organismes génétiquement modifiés qui causent tant de problèmes, semble-t-il, en ce moment. Eh bien, ce code est le même des bactéries à l'homme, ce qui fait qu'on peut prendre des morceaux de mémoire de programmes venant de l'homme, par exemple, et le mettre dans une bactérie et faire des protéines humaines par des bactéries. Alors ça, c'est un point tout à fait fondamental. Donc ce code, c'est plutôt ce que les services secrets appellent le chiffre, c'est, ou cipher en anglais, c'est donc cette règle de correspondance entre un niveau et un autre. Alors vous remarquerez ici que ça introduit quelque chose qui est extrêmement abstrait, extrêmement symbolique, qui est le passage d'une chimie avec une nature physique d'un certain type à une nature physique d'un type totalement différent. La chimie des acides nucléiques n'a rien à voir avec la chimie des protéines. Et tout ce qui va se passer est donc d'une certaine manière symbolique. Alors le fait d'avoir un code, le fait d'avoir une transposition d'un niveau à l'autre est quelque chose de tout à fait original. En effet, lorsque vous pouvez transposer un texte d'une langue dans une autre, et l'autre étant à la tête d'objets manipulateurs, ces objets peuvent évidemment manipuler le texte de départ. Donc vous faites une boucle très particulière qui est, d'une part, qu'elle permet de, par le texte lui-même, de spécifier ce qu'il reproduira lui-même. Donc vous voyez, le texte peut faire appel à soi-même pour pouvoir engendrer sa descendance. Et il peut aussi, bien sûr, comme le font les programmes à l'ordinateur, spécifier tel ou tel type de manipulation dans des environnements variés. Alors, je n'aurai pas le temps de le détailler en profondeur aujourd'hui, mais ce fait d'avoir deux niveaux qui se correspondent à travers un code a une conséquence tout à fait originale, c'est qu'un système de ce genre peut être parfaitement déterminé et déterministe et parfaitement imprévisible. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant parce que nous sommes encore dans l'image du XVIIIe siècle des horloges où lorsque l'on a une horloge, on peut, connaissant l'état initial du système, savoir où sera l'aiguille dans un certain temps, si on connaît bien la mécanique. Eh bien, ce type de système ne vous permet pas ça. Et en fait, les organismes vivants sont ces systèmes matériels qui, en face d'un avenir imprévisible, sont construits pour construire de l'imprévu. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, et cela sans avoir besoin de renoncer au déterminisme. Ça, c'est aussi fondamental. Et on n'a pas besoin même d'imaginer qu'on a une grande sensibilité à des conditions initiales de ce genre. En fait, l'idée même d'avoir une mémoire, une manipulation et un code entre les deux permet ce genre de propriété. Alors, je vous résume brièvement la façon dont ça se passe. Et ce sont les seuls objets que je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à le voir avec ces transparents faits pour la télévision, donc pas faits pour les gens. Comme vous voyez, c'est typiquement fait pour autre chose que la communication du savoir. La première règle est ce qu'on appelle la réplication. C'est la loi que j'ai appelée donc loi de complémentarité, qui à chacune des quatre lettres du premier texte fait correspondre quatre lettres du deuxième texte. Et ce qui est intéressant dans cette réplication, c'est que c'est une loi qui recopie un texte, comme le faisaient les moines copieurs du Moyen-Âge, sans se soucier, ou plutôt, comme auraient dû le faire les moines copieurs du Moyen-Âge, sans se soucier du contenu sémantique, du sens de ce qui est recopié. Ça, c'est fondamental. Cette loi ne s'occupe pas du sens. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer n'importe quel morceau d'ADN, vous pouvez ajouter de l'ADN artificiel, il sera recopié tel quel, avec un certain taux d'erreur. Je ne vais pas discuter de tout ce qui est le mécanisme de correction des erreurs, qui est d'ailleurs extrêmement intéressant. Mais donc, ce système sera recopié tel que, sans s'occuper du sens. Maintenant, la deuxième loi, celle qui correspond au code génétique, elle se fait en fait en deux étapes. Un premier recopiage qui est d'un alphabet à quatre lettres dans un autre alphabet à quatre lettres légèrement différent. Puis, on passe à l'alphabet à 20 lettres des protéines. Et c'est là que se fait le changement qui vous permet, à partir donc du texte du programme, de fabriquer des objets manipulateurs qui vont manipuler le programme lui-même. Alors maintenant, comment est-ce que les organismes vivants, dans ce type de situation, donc avec cet ensemble de règles, donc quatre processus et deux lois, dont la loi du code génétique, comment les organismes vivants vont-ils vivre, exister, évoluer? Eh bien, il existe autour de la vie un concept central lié précisément au concept à l'idée de relation entre objets, et c'est le concept de fonction. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez peu ou pas en chimie ou en physique. alors que c'est quelque chose qui est réellement central en biologie. En biologie, lorsqu'on parle d'un objet biologique, on va immédiatement s'interroger sur la fonction de cet objet. Alors la fonction de cet objet, ça veut dire qu'on se demande, cet objet donc existe, va réaliser une action, et cette action est dirigée dans une certaine orientation avec l'apparence d'un but, l'apparence d'une finalité. Alors ça, c'est un point qui, je crois, est tout à fait essentiel. Tous les organismes vivants et tous les objets du vivant sont placés dans un contexte dans lequel, au sein de procédés particuliers de leur expression, de leurs actions, il y a une orientation vers une apparence de but. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer quelques exemples où l'on essaye de décrire quelques-uns, la façon dont se créent justement ces buts, comment se créent les fonctions biologiques, comment les choses se passent. Eh bien, évidemment, on pourrait penser qu'il y a une vision extérieure à la vie qui lui impose une orientation et un but particulier, et que les organismes vivants sont des systèmes matériels dirigés par l'extérieur vers une certaine finalité. Et c'est effectivement ce qui a été dit dans un grand nombre de pensées religieuses, par exemple, avec une logique interne assez compréhensible. Ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que ça n'est pas nécessaire, et qu'en réalité, la façon dont les organismes vivants procèdent pour se créer des buts et créer ensuite, capturer les objets qui vont permettre d'avoir les fonctions satisfaisant à ces buts, est tout à fait originale. Et elle a été très très bien résumée par François Jacob sous le nom de bricolage. Ici, j'ai tendance à dire, en fait, qu'il s'agit d'une aptitude à l'opportunisme, à faire feu de tout bois, qui fait que les organismes vivants, en fait, évoluent systématiquement en découvrant, à partir de ce dont ils disposent, puisqu'ils ne peuvent pas créer quelque chose dont ils ne disposent pas, des fonctions nouvelles. C'est-à-dire, ce qui est très particulier dans la vie, c'est d'être capable, à partir de à peu près n'importe quoi, de faire des fonctions nouvelles. Je crois que l'image du bricoleur est effectivement une très bonne image dans ce contexte. Alors, je vais vous donner un premier exemple, qui est purement métaphorique, et puis ensuite, je vais passer à deux exemples concrets qui vous montreront que ce qu'on découvre en ce moment des organismes vivants est extraordinairement fascinant et dépasse largement tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à très très récemment. Alors, la métaphore est la suivante. Voilà, c'est l'été, je suis à mon bureau, assis, mon bureau est rempli de papier, comme ici. La fenêtre est ouverte derrière moi et je suis en train de lire un livre. Et tout d'un coup, le vent se lève. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, si le vent se lève, les papiers vont s'envoler. J'ai, malgré cet apparent désordre, un certain ordre dans ces papiers. Je sais à peu près m'y retrouver. Et ce serait une catastrophe pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le livre et je le pose sur les papiers. Vous voyez immédiatement que ce livre vient de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, une fonction qui n'a rien à voir avec celle qu'il avait quand j'étais en train de le lire. Il est, parce qu'il est un parallélépipède lourd, un presse-papier. Et ça, c'est extrêmement clair. Les structures des objets biologiques sont capturées de cette manière au cours du temps, de façon systématique. Et ce qui veut dire d'ailleurs que si je découvre le livre et que je dis « ceci est un livre », je peux évidemment me tromper entièrement, parce que dans ce contexte particulier, ce n'est pas un livre du tout, c'est un presse-papier. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait fondamental. Vous entendez beaucoup parler en ce moment des programmes de séquençage de génome, par exemple, où on vous dit qu'on va avoir des morceaux de texte, qu'on va identifier ceci correspond à telle séquence, et on vous dira la fonction. Eh bien ça, c'est profondément erroné. C'est une illusion qui reste de l'illusion que les objets suffisent à faire comprendre la biologie. En fait, l'évolution des organismes vivants procède de la façon suivante. Les organismes vivants sont donc des systèmes matériels qui, simplement parce que nous sommes à 300 Kelvin, donc à la température de la surface de la Terre en moyenne, ont des variations thermiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, aucun procédé physico-chimique ne peut donner une reproduction strictement identique de ce qu'il était, simplement à cause des variations thermiques. Donc il y a des variations. Donc, ce qui se passe, c'est quand les organismes vivants produisent de nouveaux organismes vivants qui leur ressemblent, ces nouveaux organismes ne sont pas strictement identiques à l'organisme de départ. Et par conséquent, n'étant pas strictement identiques, ils sont soumis à des environnements qui, eux, vont choisir parmi ces variants certains d'entre eux. C'est ce qui est la sélection. Ça, c'est un point qui est fondamental. Mais cette sélection, alors là, je tiens à insister sur ce point, il s'agit d'un tri passif et non pas d'un mécanisme actif. Ça n'est pas la sélection du plus apte, comme le disait Spencer, parce qu'il n'y a pas de plus apte. Personne ne sait qui pourrait être le plus apte. C'est dans telle circonstance, à tel moment particulier, tel organisme a pu survivre, et c'est cette survie qui lui a permis d'être sélectionné. Donc c'est un tri passif. Il y a simplement élimination du totalement inapte, mais c'est tout. Et deuxièmement, un point qui est tout à fait fondamental chez les organismes vivants, c'est la capacité d'amplification. Il est courant chez mes collègues de se moquer des craintes du public vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés. Bien. Je comprends très bien la moquerie, mais je comprends moins mes collègues qui s'en moquent. En effet, les organismes génétiquement modifiés, les organismes vivants en général, ont cette particularité qui est écrite ici, qui est amplification. Si vous faites n'importe quelle expérience de chimie ou même de physique nucléaire et que vous faites des dégâts quelque part, les dégâts s'arrêtent et vont diffuser petit à petit au cours du temps en diminuant sans cesse. Si vous faites la même chose avec des organismes vivants, eh bien, ces organismes sont susceptibles de s'amplifier. Ils sont susceptibles de se multiplier et d'augmenter fortement, à partir du lieu où ils étaient, les problèmes qu'ils ont posés. En fait, ce qu'on peut donc se dire, c'est que les réactions du public ne sont pas du tout des réactions aberrantes. En revanche, ce qui peut être aberrant, c'est le choix des réactions. C'est-à-dire que ce qui, pour moi, est extraordinairement curieux et mériterait d'ailleurs d'être longuement discuté, c'est pourquoi diable le public réagit-il à des choses qui visiblement ne seront pas dangereuses et ne réagit pas à des choses qui sont déjà extrêmement dangereuses, tous les deux étant d'ailleurs des organismes génétiquement modifiés. On entend parler avec beaucoup d'espoir de thérapie génique, par exemple, sans visiblement aucune inquiétude, et avec une grande crainte de maïs modifié. C'est évidemment l'inverse qu'il faudrait avoir, et je pense que de ce côté, il y a beaucoup à dire et certainement beaucoup à apprendre du public pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la réaction est de ce genre. Je crois que la réaction vient d'un sentiment spontané qui est qu'on a l'impression que l'artificiel est plus dangereux que le naturel, alors que c'est exactement l'inverse. Le naturel est toujours beaucoup plus dangereux que l'artificiel. Le naturel est pré-adapté et les malheureuses événements liés au sang contaminé le montrent très bien. Nous n'avions pas peur du sang et nous n'avons toujours pas peur du sang. Et ça, c'est évidemment une grosse erreur. Le sang est préadapté à l'homme et par conséquent, potentiellement extrêmement dangereux. Mais je ne vais pas discuter ça très longuement. Je vais maintenant passer à deux exemples qui sont des exemples concrets pour vous montrer comment se créent des fonctions. Donc vous voyez, vous avez variation, sélection, amplification. Et ça fait que le système évolue. Et au cours de cette évolution, il est amené à créer des fonctions. Je viens de vous donner tout à l'heure l'exemple extrêmement simple du presse-papier. L'organisme est en face d'une situation d'urgence. Il a besoin d'une fonction qui est le presse-papier. La fonction se crée. Et qu'est-ce qu'il fait pour créer cette fonction? Il capture des structures. Et c'est véritablement, systématiquement, de cette façon que se créent les fonctions nouvelles chez les organismes vivants. Alors, en voici une qui vous paraîtra peut-être intéressante, c'est celle de la transparence du cristallin de l'œil. Vous savez que nous avons tous des yeux avec un cristallin qui nous permet, ça devient difficile à partir de 50 ans, mais d'accommoder et d'avoir une image assez nette sur la rétine de notre environnement. Et ça suppose donc un ensemble cellulaire, qui est le cristallin, qui est fait de couches un peu comme des oignons qui s'accumulent au cours de la vie, et c'est la raison pour laquelle le cristallin devient de plus en plus gros et de plus en plus difficile à contracter quand on vieillit. Et ces cellules ont la particularité d'être transparentes. Alors, évidemment, on s'est interrogé sur cette transparence, qui est en soi extrêmement intéressante et, d'une certaine manière, qui peut paraître mystérieuse, puisqu'elle apparaît un peu partout, et on peut avoir l'idée que c'est une propriété biologique absolument merveilleuse qui montre qu'il y a une finalité, etc., etc. Eh bien, quand on a commencé à étudier les protéines, donc ces objets manipulateurs à l'intérieur du cristallin, on s'est aperçu que certaines d'entre elles sont très concentrées et donc relativement faciles à purifier, faciles à identifier. On les a appelées cristallines. Et initialement, on a surtout fait une étude de leurs propriétés physico-chimiques. Et on s'est aperçu qu'effectivement, elles ont ce qu'on appelle la transition vitreuse, c'est-à-dire qu'elles sont suffisamment désordonnées pour ne pas avoir de direction de lumière privilégiée. Et donc, elles se comportent exactement comme du verre. Donc, elles sont bien transparentes. Et puis, sont venus justement des programmes de séquençage, un peu comme le séquençage du génome. On a commencé par séquencer des gènes avant de séquencer les collections de gènes que représentent les génomes. Et on a eu l'observation absolument incroyable, c'est vraiment l'histoire du livre presse-papier. On a commencé à regarder une de ces cristallines et on s'est aperçu, aux surprises, qu'on la connaissait déjà. Qu'elle ressemblait à s'y méprendre, avec quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était une enzyme, par exemple une lactate déshydrogénase, donc une enzyme qui a une activité métabolique particulière. Et c'était vraiment tout à fait la même chose. Bon, on lui a mis les substrats du métabolisme en question et on s'est aperçu que c'est une enzyme qui marche, en plus. C'est tout à fait. Mais clairement, donc, dans l'œil, elle n'a pas cette fonction d'enzyme, la fonction d'être « je suis transparent quand je suis concentré ». Et d'ailleurs, cette propriété « je suis transparent quand je suis concentré », vous savez tous qu'elle n'est pas si rare que ça. Il suffit de regarder le blanc d'œuf pour voir que ça arrive dans d'autres occasions. Et puis, on a commencé à regarder tout ce qu'il y avait autour. Et on s'est aperçu qu'autour de ces cristallines, eh bien, il y avait d'autres protéines qui ont été découvertes alors beaucoup plus récemment. On a mis assez longtemps à conceptuellement comprendre leur nécessité. Et ces protéines, on les appelle des chaperons moléculaires. Vous en entendrez beaucoup parler à propos de la vache folle dans les années qui viennent, parce que ces protéines sont des protéines qui jouent le rôle, si vous voulez, d'échafaudage ou qui permettent de remettre en forme des objets qui se sont défaits et qui ont perdu leur forme, qu'on remet dans une forme normale. Ces chaperons moléculaires, ils ont été appelés chaperons parce que, tout simplement, ils accompagnaient, comme les chaperons, les protéines qu'on purifiait, et on les trouvait toujours associées à ces protéines. Et ces chaperons moléculaires, ils ont cette particularité donc, de permettre la remise en forme des protéines dénaturées. Alors, vous voyez que ça a un intérêt considérable pour l'œil. Vous savez tous qu'au cours de l'âge, nous risquons tous, maintenant, puisque nous vieillissons, assez considérablement d'être atteint de cataracte, vous savez que donc l'œil perd sa transparence. Et l'œil perd sa transparence pour la raison très simple que justement ces protéines au cours du temps se dénaturent et que les chaperons moléculaires ne fonctionnent pas assez bien pour les renaturer. Mais si on y réfléchit un peu, dans les durées de vie humaines, 80 ans ou plus, on s'aperçoit que, imaginez si faire un objet soumis au rayonnement que nous avons dans les yeux en ce moment, par exemple, ou bien simplement aller au soleil sur la plage, envoie des quantités énormes de rayons ultraviolets qui, évidemment, dénaturent en permanence les protéines du cristallin. Donc, on va s'émerveiller et avoir une émotion immense en disant « mais c'est vraiment quand même extraordinaire ». Non seulement on a des cristallines qui sont transparentes, mais en plus on a des chaperons moléculaires qui leur permettent, c'est le signe absolument qu'il y a une main divine qui a organisé ça. Alors, un certain nombre de gens se sont interrogés sur, mais ils ont regardé un peu tout ce qu'il y avait autour, puis ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait cette protéine qui faisait les cristallines, en fait ce sont plusieurs types, ces chaperons moléculaires. Et puis, petit à petit, dans un tout autre domaine, des chercheurs ont découvert que, lorsque des cellules sont soumises à un choc thermique, ce qui est très fréquent finalement, vous prenez une feuille qui est mise au soleil et un nuage passe, vous voyez bien qu'elle a chaud, puis froid, puis chaud, etc. Donc évidemment, un choc thermique, c'est très important et la plupart des protéines réagissent mal à ça. Les protéines donc, sont des enchaînements d'acides aminés qui sont repliés dans l'espace. Vous voyez que ça se déplie, ça se replie mal et vous savez d'ailleurs que cuire un œuf, vous voyez ce que ça fait, c'est très difficile à décuire après. Et donc, vous avez ce genre de problème. Et en fait, au cours de l'évolution, donc bien avant les cristallins, se sont inventés une première fonction qui est la fonction d'un ensemble de protéines qui sont les protéines de résistance au choc. Alors, au choc thermique ou au choc acide, hein, dans un très grand nombre de cas. Et cet ensemble contient un certain nombre de protéines qui sont justement les protéines qu'on trouve dans le cristallin. Et évidemment, puisque c'est résistance au choc, là, on comprend la fonction en question, évidemment, c'est chaperon moléculaire. Donc, en fait, ce qu'on voit brutalement, c'est que dans l'état naturel pour une cellule de peau, par exemple, vous avez ces protéines. Si vous chauffez brutalement ici, vous vous brûlez, elles vont être mises en jeu parce qu'on a un système de contrôle qui va décider immédiatement, il faut faire la synthèse de ces protéines, puis l'arrêter. Eh bien, ce qui s'est passé dans le cristallin, c'est que c'est la perte du système de contrôle qui l'a rendu ce qu'on appelle constitutif, c'est-à-dire qui marche en permanence, c'est donc la perte du système de contrôle qui a en permanence rempli la cellule d'un certain nombre de protéines. Évidemment, en général, ça n'a pas d'intérêt. Il se trouve que pour un cristallin, c'est-à-dire si on avait un ensemble de cellules sensibles comme la rétine en dessous, évidemment, ça a un intérêt. Et donc, on voit comment on a sélectionné, on a capturé, c'est exactement l'histoire du livre presse-papier, comment on a capturé au cours de l'évolution ce type de fonction. Alors, vous me direz, mais ça, c'est vraiment remarquable pour le... Mais est-ce que c'est toujours vrai ? Eh bien, on peut penser à tout à fait autre chose. La transparence peut servir à tout à fait autre chose. Elle sert ici à ce que la lumière puisse passer de l'extérieur vers la rétine. Mais la transparence peut servir à vous rendre invisible à un prédateur. Alors que se passe-t-il ? Vous êtes un poisson dans l'eau, et petit, et vous êtes mangé en général. Eh bien, si par chance, un certain nombre d'accidents génétiques ont fait que certaines de vos cellules, suffisamment collectivement, ont exprimé en permanence cet ensemble de protéines, bien, tout d'un coup, vous êtes devenu transparent, sauf votre squelette. Et donc, évidemment, vous êtes moins visible, donc moins mangé, donc vous apparaissez, et donc, de cette manière, apparaissent aussi, avec le même type de capture de fonction, mais alors pour une fonction tout à fait différente, le même type de capture de fonction, quelque chose qui est un ensemble qui est préexistant, qui va être utilisé pour une fonction différente. Alors, je vais vous donner un dernier exemple, parce que je pense qu'il est tout à fait fascinant, il est très, très récent, et je pense qu'il a des conséquences importantes vis-à-vis de ce qu'on peut penser comme image mécaniste de la vie en général et de l'homme en particulier. Vous savez qu'en ce moment, donc, on parle beaucoup du programme génome humain. Beaucoup de gens s'inquiètent, à mon avis avec raison, de l'usage qu'on peut en faire. En particulier, il est évident qu'identifier un certain nombre de caractéristiques génétiques permettent de dresser une carte d'un certain nombre de propriétés générales des individus et permettent éventuellement d'en faire une classification selon des propriétés choisies. On peut domestiquer l'homme comme on domestique les animaux. Ça a déjà été fait au XVIIIe siècle, c'était les grenadiers prussiens. Ça a été fait à nouveau, moi c'est plutôt la Bavière, et vers la Pologne, dans des années plus récentes. Donc on peut effectivement s'inquiéter, mais d'une certaine manière, c'est une absurdité. L'idée de connaître un génome et de prédire le destin des individus supposerait qu'il y ait une correspondance, donc, comme je vous l'ai dit, mécanique entre la nature des génomes et la nature de l'individu. Et dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le mécanisme qui fait que les fonctions capturent des structures, en fait, cette mécanique-là est imprévisible par construction. Elle est imprévisible puisque la situation particulière d'urgence dans laquelle va être trouvé, placé un individu qui fera que la descendance de cet individu-là, il aura survécu dans cette situation d'urgence parce qu'il aura trouvé telle solution, fera qu'il ait une descendance, etc. Cette situation-là est imprévisible, et donc la sélection des nouvelles fonctions, c'est-à-dire à la fois leur création et leur sélection, est complètement imprévisible. Et je vais vous donner, donc, pour finir, un exemple que je crois extrêmement frappant à cet égard, et qui montre que l'idée même d'eugénisme n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir l'idée de faire des gens extrêmement agressifs, on fait des chiens extrêmement agressifs, c'est facile, on peut faire des grands, des petits, des poilus, aucun problème, si c'est ça qu'on veut, on peut. Mais maintenant, décider de ce qui fait l'humanité de l'homme, de ce qui fait en particulier ses capacités créatrices, ou de ce qui serait un homme meilleur, un homme idéal, là, c'est une absurdité, parce que c'est par construction impossible. Et voilà l'exemple. Lorsque la vie est apparue, donc il y a 3,8 milliards d'années à peu près, on pense, la Terre était vaste et peu occupée par des organismes vivants. Donc pour commencer, les premiers organismes ont eu énormément de place pour se multiplier, et donc ils ont eu très peu à prendre en compte les autres. Donc la première stratégie des organismes vivants, là je diffère de François Jacob. François Jacob dit que le but d'un organisme vivant, c'est de faire un deuxième soi-même. Je pense que c'est une image extrêmement narcissique, mais qui n'est pas nécessairement celle qui est celle de la vie, je pense qu'on pourrait tout simplement dire que le but des organismes vivants est exactement le même que le but de tout système physique, qui est d'occuper le plus possible d'espace et d'état. Hein, c'est-à-dire tout simplement occuper tout. Enfin, les organismes vivants occupent tout, le plus possible, avec les moyens dont ils disposent. Donc les premiers organismes vivants ont fait ça, et un des moyens d'occuper tout, ben, c'est de faire un autre soi-même. C'est effectivement assez efficace pour occuper vite. Donc, au début, multiplication, mais vous voyez bien que ça ne dure qu'un temps, et l'homme est en face du problème en ce moment. Donc, multiplication jusqu'à un certain niveau, et tout d'un coup, il faut commencer à prendre en compte l'autre. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. La manière brutale, c'est tout simplement s'en débarrasser, le manger et prendre sa place. Bon, ça, c'est la manière habituelle. Il y a des manières beaucoup plus astucieuses. Ces manières-là sont efficaces au premier degré. Ensuite, il y a beaucoup d'autres moyens de réussir qui sont beaucoup plus astucieux et beaucoup plus efficaces. Mais disons que c'est probablement ce qui s'est produit très tôt. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les premières fonctions, vous voyez, c'est à nouveau une situation donc, d'urgence. Vous avez des organismes qui se multiplient, puis tout d'un coup, ils commencent à rencontrer des autres. Vous avez vu, en se multipliant, ils produisent des variants, donc ces autres ne sont pas tout à fait eux-mêmes. Bon, ils doivent rester... Si c'est eux qui doivent occuper ceux qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes, il faut s'en débarrasser. Donc la première chose, c'est créer une sonde qui vous dit « cet autre me ressemble ou ne me ressemble pas ». Donc ça, première fonction à créer, une sonde, un capteur. Deuxième fonction, ce capteur, il va falloir l'utiliser pour aller tuer l'autre. Donc il faut un certain nombre de choses. Le capteur doit avoir des relais. Ces relais doivent faire synthétiser un certain nombre de produits qui vont être ensuite recrachés dans l'environnement, qui va ainsi pouvoir détruire l'autre, qui va ensuite être mangé. Et ça, c'est l'invention des antibiotiques. Les antibiotiques, donc, sont très probablement extrêmement anciens. Ils ont été inventés par les bactéries extrêmement tôt. Et il y en a d'ailleurs toute une grande variété. Et on comprend bien comment ça marche. Vous voyez que la bactérie, d'ailleurs, qui produit les antibiotiques, a quelques petits problèmes, puisqu'il ne faut pas qu'elle se tue elle-même. Donc il faut qu'elle crée aussi un système d'immunité contre ses propres missiles. Bon, donc elle doit avoir fait ça. Donc on voit bien, ça, c'est un système qui existe et qui est extrêmement répandu dans la nature. Bon, voilà, une première fonction, un premier ensemble de fonctions, donc capteur, cascade de régulation, sécrétion. Et puis, vous avez ensuite, petit à petit, justement, dans la prise en compte de l'autre, il y a la coopération, il y a le parasitisme, il y a des relations d'équilibre prédateur-proie, enfin, vous pouvez imaginer toute une variété de possibilités, mais il y en a une qui a été inventée beaucoup plus tard, mais probablement il y a un milliard d'années quand même, qui est de se mettre ensemble, c'est-à-dire de faire des organismes faits de plusieurs cellules. Alors sont apparus les premiers organismes donc multicellulaires. Alors là, évidemment, se créent de nouvelles fonctions qui sont de créer cet organisme multicellulaire, ça crée des contraintes particulières dans l'environnement qu'il faut gérer, il faut éventuellement une tête, une queue, il y a des problèmes de symétrie, il y a toute une série de nouveaux problèmes à régler. Et c'est ainsi que, petit à petit, se sont créés des organismes de plus en plus compliqués jusqu'aux insectes ou à l'homme. Et dans le cas des insectes, par exemple, on s'est interrogé récemment sur la façon dont les insectes résistent aux microbes. Ont-ils un mécanisme de défense ? Alors, on a injecté des champignons, des bactéries dans les insectes, et découverte relativement attendue, intéressante, quand on injecte un champignon à la mouche drosophile, eh bien, il se crée une cascade. Il y a un capteur qui reconnaît le champignon, il y a tout ce que vous voulez, et il crée son antibiotique qu'on a appelé de façon appropriée, puisque c'est la mouche drosophile, la drosomycine. Bon, jusque-là, rien de tellement extraordinaire. Mais voilà qu'arrive la chose qui est tout à fait surprenante et qui est la suivante. On a, au cours donc, de ces analyses de gènes et de génomes, on a la possibilité maintenant de reconnaître les gènes assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut identifier lorsqu'on a un produit, lorsqu'on a une cascade justement d'événements de ce genre, on peut repérer les gènes correspondants et savoir exactement quels ils sont, où ils sont dans les chromosomes et repérer l'ensemble de la mécanique correspondante. Et là, on s'est aperçu que cette cascade particulière de résistance, eh bien, on la connaissait déjà. On la connaissait déjà. Elle avait été découverte tout à fait ailleurs, dans un contexte totalement différent, avec une fonction totalement différente. En effet, il s'agit d'une cascade qui est éveillée transitoirement au cours de la différenciation de l'embryon de la larve de la mouche pour en déterminer l'axe dorso-ventral, c'est-à-dire la position du dos par rapport à la position du ventre. Donc vous voyez ce qui est tout à fait extraordinaire. Cette cascade, c'est-à-dire ce très très ancestral mécanisme de fabrication d'antibiotiques, a été capturé par les organismes multicellulaires pour déterminer la forme de l'individu. Alors ça vous dit la chose suivante, ça vous dit que nous vivons dans un environnement particulier aujourd'hui. Nous avons effectivement des systèmes immunitaires, d'ailleurs, si nous survivons aujourd'hui, ce n'est certainement pas à cause de notre intelligence, mais simplement parce que nos ancêtres ont résisté à la peste, au choléra et à la variole. Il faut bien être clair de ce point de vue. Et donc, on a un grand système, un grand ensemble de systèmes immunitaires tout à fait fonctionnels. Si l'analogie que je viens de vous donner se perpétue, on peut tout à fait imaginer que le fait aujourd'hui d'être mis en face d'une nouvelle maladie décide de la forme de nos descendants futurs. Et ça, pour moi, ça interdit tout à fait toute idée possible de pensée eugénique. Alors, je vais finir par juste quelques éléments très brefs de vous montrer un peu comment se construisent les organismes vivants. En particulier, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que donc, les collections de gènes qui sont dans la mémoire, qui forment donc ce qu'on appelle aujourd'hui le génome, ces collections de gènes ne sont pas mises au hasard. Je vous ai dit au début de cet exposé que ce qui comptait, c'était les relations entre objets. Et bien, de façon très claire, on est en train de se rendre compte que l'ordre des gènes dans les chromosomes n'est pas du tout au hasard, et qu'en fait, que cet ordre est directement lié à l'architecture de la cellule. C'est-à-dire que il y a un lien entre la forme du programme et la forme de la cellule. Alors ça, ça a été connu depuis un certain temps chez les organismes multicellulaires, d'abord chez les insectes, où on a trouvé, alors un certain nombre, ça a valu quelques prix Nobel, il doit y avoir deux ans, chez les insectes, on a trouvé, donc, si on regarde la larve et puis l'insecte, de la tête à la queue, et qu'on met à la suite les uns des autres les différents chromosomes et les différents gènes, on les aligne simplement comme si c'était un texte, le texte d'un livre, eh bien on s'aperçoit que les gènes qui contrôlent les différents éléments sont ordonnés exactement dans le même ordre de la tête à la queue. Et mieux, et ça, ça a été une des grandes découvertes, si on prend par exemple un de ces gènes et qu'on le déplace, qu'on le met à un autre endroit, eh bien on va déplacer les organes correspondants. Par exemple, on peut faire des mouches dans lesquelles on va mettre une patte à la place d'une antenne simplement en déplaçant un de ces gènes. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui, en soi, est tout à fait remarquable. Ça vous montre donc que vous avez un programme qui est fait de façon modulaire, qui vous dit séquentiellement comment se font les choses. Et alors, ça a permis aussi de découvrir, ça c'est très récent, une observation qu'avait faite Geoffroy Saint-Hilaire, je ne peux même plus dire au siècle dernier, il y a deux siècles maintenant, qu'avait découvert Geoffroy Saint-Hilaire. Si vous comparez les insectes ou nous-mêmes, et les crustacés, le homard que vous avez peut-être mangé récemment, vous verrez que le nerf central dans le dos passe sur le ventre et inversement. Chez nous, on a juste une colonne vertébrale dans le dos et tout reste dans le dos. Eh bien, on s'est aperçu que c'était effectivement le même plan qu'ici, mais qu'ici, il y avait deux gènes qui étaient inversés. Et qu'effectivement, c'est ça qui fait qu'on inverse le plan dos-ventre chez l'animal. Et alors, la dernière découverte, qui est absolument fabuleuse à mon avis, et qui fait que l'un des bons modèles de l'homme, ça va être la mouche, ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'on a découvert que chez certains animaux, en particulier chez les mammifères, en fait, le plan est tout à fait le même que celui de la mouche drosophile, exactement dans le même ordre, mais simplement, nous sommes un quatuor, c'est-à-dire au lieu d'être une seule partition, qu'on jouerait une seule fois, on a quatre partitions côte à côte. C'est quatre simultanément, qui détermine nos segments, car nous sommes segmentés, il suffit de regarder ces vertèbres et ces côtes pour s'en rendre compte, nous sommes segmentés, mais ça se voit moins parce que, justement, comme un quatuor, on se déploie, c'est-à-dire qu'on a des vertèbres qui deviennent tout à fait déformées, qui vont faire une tête, mais que vous voyez qu'on retrouve malgré tout à nouveau cette idée d'un plan et d'une organisation générale. Donc je finis pour vous dire que donc on peut considérer que les organismes vivants sont construits à partir d'un programme, que ce programme est très lié à l'architecture générale des organismes, mais que ce programme a la particularité par construction, même en étant déterministe, de faire systématiquement de l'imprévu.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux questions. Oui, oui, vous êtes en un micro.
Oui, bonsoir. Je ne suis pas très sûr que vous nous ayez beaucoup parlé d'identité génétique, mais pour reprendre votre introduction, vous nous avez tenu un discours de prêtre dans la fonction dans la société.
Oui.
Aussi de philosophe, mais pas parce que vous êtes scientifique, parce que vous êtes un citoyen parmi les autres. Et le problème, c'est que votre rôle de prêtre n'est pas contrôlé par les philosophes, c'est-à-dire chacun de nous. Chacun de nous a droit au discours du prêtre, n'a en général pas accès à la cuisine du prêtre, c'est-à-dire ce que vous faites sur la paillasse du labo. Et donc, nous n'avons pas la possibilité ni de décider de ce que vous allez chercher, ni d'évaluer de ce que vous allez trouver. Ce qui explique les abus des techniques et des sciences, et le fait que, entre autres, la génétique pour laquelle, il y a quelques décennies, on avait demandé un moratoire, mais la gène éthique a repris de plus belle, aboutit à des choses avec lesquelles la société ou la population, ou une partie un peu plus éclairée de la population, n'est pas d'accord. Il y a une certaine correspondance entre l'identité génétique et l'identité judiciaire. Et le type de société qui va utiliser la génétique, que ce soit à des fins commerciales, entre autres l'appropriation du vivant, le fait de pouvoir breveter des choses, soit qui sont utilisées par d'autres sociétés, soit qui n'appartiennent à personne parce qu'elles n'ont pas de valeur au sens commercial que nous leur donnons. Là, je crois qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer sur cette fonction d'apprenti sorcier qu'ont encore certains prêtres scientifiques et qui nous mettent en danger, bon. Qui nous mettent réellement en danger en tant que société parce que nous n'avons pas de barrière, nous n'avons pas de garde-fous. Et non. On demande aux experts responsables des problèmes d'être les apporteurs de solutions. On vient de le voir encore dans les actualités aujourd'hui. Avec le fait que la pollution était financée par les pétroliers. Enfin, la lutte anti-pollution était financée par les pétroliers.
Posez votre question, s'il vous plaît.
Bon. Je n'ai pas de question, j'ai une objection, votre honneur.
Oui. Merci.
Bon. Je crois avoir, au moins en partie, répondu à votre objection, votre honneur, précisément par la façon dont j'ai commencé cet exposé. Il est clair que dans un exposé extrêmement bref de 50 minutes, il est impossible de vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de vos laboratoires. Mais je voudrais vous demander combien de fois, si vous avez une automobile, avez-vous démonté l'injecteur aujourd'hui ? Je voudrais vous demander si vous utilisez parfois un poste de télévision et combien de fois vous avez démonté les microprocesseurs, etc. Sinon, il faut évidemment éviter de le faire, c'est-à-dire ne pas avoir aucun de ces objets.
Je peux prendre votre propre exemple de la barque. Mm-hmm. Qui actuellement change une planche de sa barque ? On n'est plus au temps des grecs, et vous raisonnez encore sur ce genre d'exemple.
Non, mais c'est vous qui raisonnez.
Il y a bien longtemps qu'on change de barque.
Eh ben, c'est vous qui changez de barque.
C'est dans le vivant, c'est aussi ce qui se passe.
Non.
On change d'être vivant. Les êtres vivants qui ont existé au cours de l'histoire du vivant,
s'il vous plaît.
Oui, bon.
N'existe plus maintenant. Il y a longtemps qu'il y a eu une prolifération.
Je crois donc que nous entendons un prêtre.
Bien. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît ?
Hélas.
Bonsoir. J'ai lu dans une revue que des équipes de biologie faisaient des recherches sur un système minimal de gènes qui permettrait d'avoir un système vivant. Donc, ils partaient de bactéries à 300 gènes et essayaient de réduire ce nombre pour obtenir un système minimal. ça a l'air d'aller un peu à l'encontre de ce que vous disiez, puisque vous semblez plutôt dire que le, enfin que ce type de recherche n'est pas très intéressante, étant donné que l'évolution, enfin les fonctions se créent toujours. Donc on veut déterminer un système minimal et en plus par la suite cette équipe sans doute envisager de partir de ce système minimal pour ensuite avoir des êtres plus ou moins évolués, enfin constituer des choses plus complexes. En fait, cette approche-là semble pas du tout moderne selon vous.
Ben vous avez parfaitement raison. En fait, vous faites la réponse à ma place. Il est tout à fait vrai qu'il y a des organismes qui sont dégénérés. Ce sont en général des organismes très proches des parasites qui ont perdu la plupart des fonctions qui leur permettent d'occuper un environnement particulier. On peut essayer de réduire au minimum, à condition évidemment de leur donner un environnement particulièrement riche dans lequel on met tout ce qui est imaginable, on peut essayer en effet de créer l'organisme, ou plutôt la famille d'organismes, parce qu'en fait on pourrait en faire probablement un très très grand nombre différents, qui auraient le minimum de gènes. Et on peut faire le calcul que 300 gènes probablement suffiraient, à condition de donner tous les éléments de base pour avoir des organismes qui puissent survivre dans ces environnements. Mais c'est justement la partie innovante de la vie, c'est précisément de se débrouiller dans des environnements totalement imprévisibles et non pas dans un environnement entièrement prévisible. Donc en fait, c'est plutôt un exercice de style pour essayer de voir parmi les fonctions qui sont apparues au cours des âges, quelles sont celles qui sont strictement, rigoureusement nécessaires pour faire des organismes vivants. Alors, un dernier problème lié à ça, c'est que ces organismes-là sont des organismes qui évoluent assez vite et qui sont donc extrêmement instables, parce qu'on était obligé, en leur faisant perdre des gènes, on était obligé de leur faire perdre un certain nombre de mécanismes de correction des erreurs. Alors, ça marche assez bien si on les fait se reproduire suffisamment vite dans des environnements riches, etc. Mais dans la nature, ce serait strictement impossible. C'est la même chose que les animaux domestiques, si vous voulez. Les animaux domestiques sont des animaux qui ont perdu un certain nombre de capacités et qu'on ne pourrait pas relâcher dans la nature, évidemment.
Après vous avoir écouté, on se sent un petit peu plus intelligent. C'est la raison pour laquelle j'ose vous poser une question qui va être complètement imbécile, sans doute. Je voudrais revenir sur cette notion de fonction et l'origine de la fonction. Si j'ai bien compris, lorsqu'on met ensemble un certain nombre d'objets, dans certaines conditions, elles vont créer, ces objets mis ensemble, vont créer des nouvelles fonctions qui sont différentes de celles des objets pris individuellement. Est-ce que ceci veut dire que les objets pris individuellement n'ont rien à voir avec la fonction qui va être créée ? Si c'était le cas, d'autres objets complètement différents, mis ensemble dans certaines conditions, pourraient créer la même fonction.
Absolument.
Si par exemple, prenons l'exemple tout simple de la molécule d'eau qui est constituée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, lorsqu'on les met ensemble dans l'œuf électrique, on obtient une molécule d'eau qui a certaines propriétés, par exemple celle de dissoudre toute une série de composés. Mais est-ce que dans l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogène, il y a des propriétés qui peuvent expliquer cette fonction de l'eau?
Alors, votre question, je me méfie toujours des questions qui sont annoncées comme stupides, car dans le cas précis, c'est une question extrêmement profonde. La nature même de ce qu'est une fonction mériterait des années de discours et des années de réflexion. Donc, vous avez, de ce point de vue, parfaitement raison. Mais vous avez dit quelque chose qui, à mon avis, contient un élément de réponse très intéressant pour la biologie aujourd'hui et pour une certaine biologie du futur, qui est de dire, mais voyons, si ce sont des relations entre objets qui comptent, eh bien, après tout, je pourrais peut-être prendre des objets de nature différente et réaliser la même famille de fonctions. C'est effectivement ce qui est fait dans les ordinateurs. On a des ordinateurs qui tournent avec de la matière qui est du silicium et d'autres qui tournent avec de la matière qui est de l'arsénure de gallium. Ce sont des matières entièrement différentes et néanmoins les mêmes programmes tournent avec les mêmes résultats. Donc on peut effectivement imaginer qu'on crée des fonctions avec des objets différents. Eh bien, c'est vrai, c'est réalisé dans la vie et c'est ce qu'on appelle souvent la convergence. Par exemple, il existe dans la nature des fruits extraordinairement sucrés qui ne contiennent pas de sucre. Et parmi ces fruits extraordinairement sucrés, on a étudié certains d'entre eux et on a découvert que ce qui les rendait sucrés étaient des petites protéines
totalement différentes les unes des autres, par exemple la tomatine et la mélitine, des protéines qui ont un pouvoir sucrant absolument immense, c'est-à-dire 1 million de fois plus que le sucre ou quelque chose comme ça. Et ces protéines, elles ont la même fonction, qui est d'avoir un pouvoir sucrant, mais elles n'ont pas du tout la même forme. Et on peut donc penser, et certains chercheurs le pensent aujourd'hui, qu'on pourrait essayer de fabriquer maintenant des organismes vivants pour lesquels on changerait la nature même du code génétique, c'est-à-dire, par exemple, on changerait la nature des acides aminés, on pourrait en rajouter ou en diminuer. On pourrait même imaginer substituer les nucléotides des acides nucléiques, des ADN, par d'autres molécules ayant les mêmes propriétés d'alignement. Et je pense que, bon, ce ne sera probablement pas de mon vivant, parce que les programmes de recherche correspondants sont extrêmement difficiles, mais il est tout à fait imaginable de créer des organismes vivants dont on pourrait dire, si vous voulez, qu'ils seraient proprement immangeables. C'est-à-dire qu'ils auraient les mêmes propriétés que nous, mais ils ne seraient pas reconnus par nous comme tels. C'est tout à fait imaginable.
S'il vous plaît, ici, merci. J'aimerais connaître, ici, monsieur, sur votre droite. Sur votre droite.
Levez-vous.
Voilà.
Merci.
J'aimerais connaître avec quelques précisions comment, après un certain nombre de réactions chimiques moléculaires, se crée la fameuse membrane dont vous avez parlé au tout début de votre intervention, essentielle à ce qui représente la vie. Merci.
Alors, la synthèse des membranes est justement fait partie des éléments fondamentaux de l'origine de la vie, donc c'est avant même ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui correspondent à des propriétés de la physique qui sont des propriétés qui permettent spontanément de faire émerger une nouvelle fonction, avant même que la vie existe. En effet, si vous avez, par la chimie du carbone, des molécules qui sont dissymétriques, on a parlé à l'instant de l'eau, je n'ai pas le temps de vous répondre sur l'eau, il y aurait une infinité de traités à faire, mais dans l'eau, les molécules, la plupart du temps, soit peuvent être dissoutes, soit s'orientent d'une certaine manière. Et si vous avez des molécules qui sont ce qu'on appelle dipolaires, qui sont chargées d'un côté, pas chargées de l'autre, et surtout qui ont tendance à organiser les molécules d'eau à leur voisinage, elles vont avoir tendance à sortir de l'eau. C'est-à-dire, au lieu de rester dans l'eau, elles s'en vont parce que, c'est contraire au deuxième principe de la thermodynamique, si vous voulez, le fait de rester dans l'eau organise l'eau, diminue le nombre des états possibles des molécules d'eau. Donc, ces molécules, dès qu'elles existent, elles ont tendance à se mettre à la surface. Bon, si maintenant, il y en a plusieurs et qu'elles sont agitées, eh bien, un autre moyen de résoudre le problème, c'est de se mettre tête bêche. Elles se mettent tête bêche et elles font un feuillet. Et vous voyez donc, la première chose qui va se faire avec ces molécules, c'est qu'elles vont fabriquer des feuillets. Et arrive justement la création ici d'une première fonction, qui est la suivante. Vous imaginez que vous avez un feuillet comme ça qui est agité. Bon, pendant tout un temps, il reste feuillet. Et puis tout d'un coup, un jour, par accident, ce feuillet se referme. Au moment où il se referme, le destin de la Terre est changé, parce que vous venez de créer tout d'un coup quelque chose d'entièrement nouveau, qui est quelque chose qui a un intérieur et un extérieur, et qui va avoir la possibilité de domestiquer l'énergie. Et donc, mais ça, c'est avant la vie. Et vous voyez que c'est donc l'apparition de fonctions, qui est la création d'une compartimentation, bien avant la vie. Et donc, mais votre question est très très bonne en ce sens que l'une des questions auxquelles on doit répondre si on veut répondre à l'origine de la vie, c'est justement l'origine de ces molécules qui permettent de faire ça. Et la plupart du temps, les gens se satisfont d'un acide aminé dans des météorites, ce qui est évidemment sans grand intérêt.
Une autre question.
Comment se pose pour vous, monsieur, le problème de l'émergence de la conscience dans ce domaine?
Alors, là vous sortez de mon propos complètement. Il faudrait demander ce qu'il en pense à quelqu'un qui travaille sur le système nerveux, mais tel que je vous l'ai décrit à présent, l'idée même d'un mécanisme de codage, c'est-à-dire qu'il y ait des correspondances symboliques entre un niveau et un autre niveau, permet le retour sur soi, permet la réutilisation de l'objet lui-même. Si vous voulez, dès la cellule la plus primitive, cet aspect purement symbolique, de correspondance entre le texte de la mémoire et le texte de la manipulation, possède des propriétés qu'on peut imaginer s'être réinventées, alors à un niveau totalement différent et extraordinairement symbolique, qui est celui que nous avons ce soir lorsque nous parlons ensemble, via le langage, avec un mécanisme particulier qui est le codage du langage qui nous permet de retourner sur nous-mêmes.
Bonsoir.
Là-bas. Levez-vous.
Oui. Bonsoir déjà, merci pour votre exposé. Moi j'ai une question qui m'a toujours interpellée, c'est au niveau de l'évolution de l'être humain, donc des hommes. On m'a toujours appris que l'Afrique avait été le berceau de l'humanité, donc je pense que les hommes au départ étaient noirs. Comment expliquez-vous l'évolution de l'homme ? Est-ce que vous, au niveau de la mélanine, est-ce que vous pensez que c'est... Il y a eu une modification du rôle des chaperons moléculaires chez l'homme.
Non, là, vous me posez de nombreuses questions qui sortent de mon domaine de compétences habituelles, disons, mais je pense que je peux vous donner un certain nombre de réponses. D'abord, l'une des particularités de l'homme, et vous avez raison, il est assez probable que l'homme est originaire d'Afrique, l'une des particularités de l'homme, c'est d'être un animal nu. Et ça, c'est quelque chose qui est un gros problème. Perdre ses poils est un problème assez considérable dès qu'il y a du soleil. Donc il est très probable qu'initialement, l'homme, s'il est né en Afrique, dans un endroit fortement ensoleillé, les seuls survivants devaient avoir créé une fonction qui est le filtrage des rayons ultraviolets. Et donc la couleur noire correspond à l'absence de poils. Et en fait, je pense qu'ensuite, si l'homme a commencé à conquérir le reste de la Terre, eh bien, il a commencé à avoir des problèmes précisément parce qu'il était noir et parce qu'il se trouve qu'il avait perdu un certain nombre de fonctions pour la fixation du calcium dans ses os, dont il n'avait pas besoin parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Bon, je ne peux pas détailler la chose, mais disons que dans certaines circonstances, nos systèmes métaboliques nous permettent de fixer facilement le calcium à condition d'avoir un ensoleillement suffisant. Vous imaginez donc que si ces hommes commencent à émigrer vers le nord, eh bien, ils vont avoir des problèmes de rachitisme, petit à petit. Et c'est d'ailleurs, votre question est de ce point de vue extrêmement bonne, parce qu'elle vous montre que, comme très souvent, c'est la perte d'un gène qui fait acquérir une fonction. En fait, ils vont perdre des gènes de contrôle de fabriquant la mélanine, donc devenir blanc, donc pouvoir absorber les rayons solaires, qui sont d'ailleurs moins dangereux, et pouvoir fixer la vitamine D, et par conséquent survivre à des latitudes de plus en plus nordiques. Et effectivement, plus on va au nord, plus les gens sont blancs et blonds, c'est assez compréhensible de ce point de vue. Mais je vous donne ça comme explication instantanée. Hein. Ah bon, là, ça c'est différent, ça c'est très simple. C'est la pigmentation de la peau nécessite au minimum la coopération de 8 gènes différents. C'était la mélanine, c'est quand même quelque chose de vraiment difficile à faire. Et d'ailleurs, il y a des variations de couleurs tout à fait considérables. Mais parmi ces gènes, évidemment, leur action doit être coordonnée. Et donc, il y a des gènes qui assurent le contrôle de cette coordination. Et si vous perdez le système de contrôle de la coordination, vous perdez tout à la fois. Et là, en fait, on perd beaucoup plus, d'ailleurs, que simplement la mélanine. On perd toute une série de propriétés, des pigments visuels, etc. Donc l'albinisme a des tas d'autres conséquences que simplement la couleur blanche.
Une toute dernière question. Une toute dernière question très rapide. Merci.
Je m'excuse de poser une question de détail. Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup aux insectes et j'étais très frappé d'un phénomène connu sous le nom de mimétisme. Vous savez bien qu'il y a, parmi d'autres, une espèce de papillon qui a une forme tellement fidèle d'une feuille morte qu'on peut se tromper même si on prévient qu'il s'agit d'un papillon. On expliquait très facilement avec l'hypothèse de finalisme, de sélection dirigée vers un but, comment aujourd'hui, avec les conceptions de la génétique moléculaire, on peut envisager un genre d'explication de ces phénomènes bizarres.
Alors, dans le cas précis que vous me posez, c'est-à-dire la feuille morte, je ne connais pas l'explication. En revanche, il y a d'autres cas pour lesquels les explications sont assez claires aujourd'hui. C'est la formation des ocelles chez les papillons. Vous savez qu'un certain nombre de papillons ont un mécanisme de défense. Ils ont les ailes antérieures qui sont souvent peu colorés, et quand un prédateur arrive, il découvre les ailes postérieures qui contiennent des ocelles extrêmement visibles, comme deux gros yeux. Et effectivement, ça effraie les prédateurs. Donc on voit d'où vient la pression de sélection. Et bien, ce qui est remarquable, c'est que dans ce cas très précis de formation des ocelles, on a découvert, c'est tout à fait la même chose que la cascade Toll que je vous ai découvert, que je vous ai décrite tout à l'heure, des antibiotiques qui déterminent l'arc dorso-ventral. On a découvert que ce qui fait les ocelles, c'est la capture d'une fonction qui n'a strictement rien à voir. Et donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que c'est des pré-fonctions pré-organisées pour tout à fait autre chose qui sont capturées à un endroit ou à un autre. C'est comme la transparence de l'œil. Alors, pour les feuilles mortes, je ne pense pas qu'on le sache encore, mais c'est probablement quelque chose de ce genre.
Professeur Danchin, merci beaucoup.